L'Oiseau Blanc, Philippe Rousselard, bonjour. Aujourd'hui, L'Oiseau Blanc accueille
Catherine Ronflenadeau.
Nous allons aujourd'hui nous intéresser non pas à un type d'oiseau blanc, mais disons plutôt à un bourdon, au nom anglais de drone, en fait qui signifie plus exactement le faux bourdon, le mâle de l'abeille. Catherine Ronflenadeau, votre expertise sur cette question des drones est reconnue sur la région toulousaine, mais aussi sur le plan international. Alors, avant que nous rentrions dans le détail de la problématique du drone, qui êtes-vous, Catherine ? Et comment êtes-vous parvenu à acquérir cette reconnaissance sur un domaine si spécifique à l'évolution si rapide ?
J'ai une mission à la DTI, la Direction de la Technique et de l'Innovation de la DSNA, la Direction des Services de la Navigation Aérienne. En fait, je travaille sur les drones depuis maintenant 14 ans, et j'ai d'abord commencé à l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile, comme responsable d'un laboratoire qui fabriquait des drones, avec l'idée d'en faire un projet pédagogique pour intéresser les élèves, finalement, à tous les domaines de l'aéronautique. Et donc, j'ai rejoint la DTI il y a 3 ans, avec une mission différente, puisqu'il s'agit de trouver des solutions pour intégrer ces drones dans l'espace aérien, qui est déjà bien occupé par l'aviation pilotée.
Oui, Catherine, en fait, votre carrière a débuté à l'ENAC, j'entends, par rapport au drone, alors que le drone commençait. C'était très novateur, cette unité à l'ENAC.
Tout à fait. Nous avons été parmi les premiers laboratoires en Europe à démarrer ce type d'activité, avec donc plusieurs, je dirais, points d'intérêt, à la fois de réfléchir à améliorer donc ce qu'on appelle la navigabilité de l'appareil, c'est-à-dire sa capacité à effectivement voler de façon sûre, mais également pour réfléchir à quelles pourraient être les applications civiles pour ce type d'appareil.
Et la question de l'intégration dans la circulation aérienne par rapport aux autres avions qui peuvent entourer ce drone n'était pas encore l'objet d'études au niveau de votre unité de recherche à l'ENAC.
Absolument. Cette question est venue 3 ans après le début, quand on a voulu effectivement faire des applications réelles, en particulier en ce qui concerne la surveillance des feux de forêt, puisque ça a été notre première application civile que nous avons démontrée en partenariat avec des pompiers et avec l'Université de Barcelone d'ailleurs. Et à cette occasion, on s'est posé bien évidemment la question de la séparation de nos drones par rapport à l'aviation pilotée et nous avons créé nos premières zones que l'on appelle ségrégées qui nous permettaient d'être séparées. Mais assez rapidement, il est apparu que ce type de ségrégation par rapport à l'aviation pilotée n'était pas une solution d'avenir et qu'on n'allait pas multiplier la création de zones spécifiques pour les drones en même temps que le trafic allait augmenter de façon considérable. Donc il fallait trouver un moyen beaucoup plus adapté pour permettre une cohabitation harmonieuse et sûre de ces aéronefs par rapport à l'aviation pilotée.
Et ce moyen, finalement, aujourd'hui, se situe dans des coordinations, des groupes de travail européens et internationaux, je dirais plus au niveau international, voire au niveau de l'organisation de l'aviation, de l'Organisation internationale de l'aviation civile.
Effectivement, il y a énormément d'initiatives en ce moment donc, sur les drones, en particulier au niveau donc l'OACI, que vous avez mentionné, donc l'Organisation de l'aviation civile internationale, également des initiatives au niveau européen par l'Agence européenne pour la sécurité aérienne, donc l'EASA, qui prépare tout un corpus législatif sur ce point.
Alors on voit bien, d'après le descriptif qu'on vient de retracer, que la problématique drone aujourd'hui se situe dans un contexte très délicat, d'autant plus que les drones, il y en a de plus en plus.
Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on se trouve avec une multiplication d'opérations de drones, puisque donc les vols de drones, on les qualifie d'opérations, et qu'on a aussi un mélange de types d'opérations très différentes qui vont finalement du drone récréatif, hein, le cadeau de Noël qu'on s'empresse d'essayer au-dessus de son jardin, jusqu'à des missions pour des gros drones, avec des applications militaires, bien sûr, mais également des applications scientifiques ou des applications de surveillance de frontières ou de surveillance de phénomènes dangereux, par exemple, qui sont effectués quotidiennement au-dessus donc, du territoire européen ou aux États-Unis.
Et on voit bien que l'application récréative aujourd'hui bien continue vers d'autres applications beaucoup plus, je dirais, professionnelles. Mais quand on parle de récréatif, j'ai, par exemple, je me suis amusé à regarder sur un site d'un marchand, et ça se situe entre 100 et 2200 euros. Donc, en fait, on voit déjà que même sur le marché, entre guillemets, récréatif, on a déjà des drones assez conséquents.
Exactement. De plus en plus, on se trouve avec des drones qui ont d'excellentes performances, tant du point de vue de leur capacité donc, à naviguer, à voler longtemps, à voler haut, et donc dans des espaces aériens où on peut rencontrer de l'aviation habitée, que par leur précision de navigation, la précision des capteurs qu'ils peuvent embarquer exactement, et donc ils sont complètement aptes pour effectuer différents types de missions. Alors on ne va peut-être pas toutes les citer, mais tout ce qui est surveillance de lignes électriques, surveillance de rails de chemin de fer, ou tout ce qui est inspection d'ouvrages d'art, agriculture de précision. Il y a énormément d'applications qui se développent petit à petit en même temps que se sont développés tous les capteurs qu'on peut embarquer sur ce type d'appareil.
Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, cet aspect réglementaire qui s'impose aujourd'hui, il s'impose également même au niveau de l'achat de drones récréatifs.
Oui, le problème, c'est que quand on lève la tête, on a l'impression que l'espace aérien est grand et qu'il est vide. Et en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Donc, on ne peut pas se permettre de laisser voler ces appareils, si petits qu'ils soient, sans mettre en place un certain nombre de règles et sans informer les usagers. Je dirais autant quelqu'un qui veut utiliser la route connaît les règles, hein, tout le monde les connaît, autant pour ce qui est de l'utilisation de l'espace aérien, donc de se projeter en 3D, c'est quelque chose qui est assez peu connu. Et donc, on avait besoin d'informer le grand public. Et ça a été fait donc, depuis ce 1er janvier en mettant une obligation pour tous les vendeurs de drones d'insérer une plaquette expliquant les usages que l'on peut faire et ceux qui sont interdits de petits drones.
Et donc, cette plaquette est à l'intérieur des boîtes hein,
Absolument. Cette plaquette est très simple. Elle est à l'intérieur de toutes les boîtes de drones qui sont vendues aujourd'hui en France. Donc, c'est une loi qui est sortie en octobre 2016 et qui était applicable à partir donc du 1er janvier 2018.
Et qui a sorti cette loi, en fait ?
C'est le Parlement. Donc, ça a été fait à l'initiative du Sénat et puis repris ensuite donc, par l'Assemblée. Et validé il y a exactement donc un peu plus d'un an.
Donc c'est bien la France qui, à ce niveau-là, a sorti ses lois.
Absolument. Ça, c'est une loi qui concerne la France et qui, d'ailleurs, pour la petite histoire, cette initiative, au départ, a été prise à des fins de sûreté plus que pour des questions de sécurité. Donc la sûreté, c'est tout ce qui concerne l'utilisation qu'on pourrait faire et qui mettrait en danger la sécurité en fait, du territoire, alors que ce qu'on appelle la sécurité, c'est faire en sorte que les vols se passent de façon sûre.
On voit bien aujourd'hui que les questions de sûreté dont vous parlez deviennent de plus en plus, je dirais, sensibles. Et je suppose qu'également dans ce domaine, existent aussi des études et des coordinations pour essayer de maîtriser au mieux cette problématique.
Absolument. Il y a beaucoup de projets de recherche et beaucoup d'études qui sont en cours. Et je dirais que l'ensemble des autorités au niveau français coopèrent là-dessus.
Est-ce qu'il y a un poids maximal dans ces drones récréatifs? Parce qu'on en voit, des petits, on en voit des beaucoup plus gros.
Oui, alors effectivement, donc, nous avons une réglementation qui est sortie. Donc, nous avons été un des premiers pays en Europe à proposer une réglementation en avril 2012. Et cette réglementation a été améliorée, mise à jour fin décembre 2015. Et elle propose différentes catégories d'appareils. Mais plus qu'une catégorisation en fonction de la masse et des performances des appareils eux-mêmes, ce qui est nouveau avec les drones, c'est qu'on va prendre en compte directement les catégories d'opérations. Donc, juste pour expliquer un petit peu, finalement, on est prêt à autoriser des vols de drones d'une masse relativement élevée s'ils volent au-dessus de zones non peuplées et dans des zones où on n'a pas d'autres aéronefs, alors qu'on n'est absolument pas prêt à autoriser le même type d'opération s'il s'agit de vols au-dessus de zones peuplées ou s'il s'agit de vols près d'aéroports. Donc on va considérer l'opération dans son ensemble, on va finalement quelque part faire une analyse de risque et définir ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire en fonction de ça. C'est vraiment quelque chose de nouveau par rapport à l'aéronautique traditionnelle où finalement on a un appareil qui est certifié et qui du coup peut faire tous les types de vols.
Et on peut dire que la France dans ce domaine a bien contribué à la mise en œuvre de cette réglementation. Elle a été à la pointe, je crois que vous venez de le dire d'ailleurs.
Tout à fait, on a été un des premiers pays en Europe, je pense même le premier, à produire ce type de réglementation. Et c'est vrai que ça a permis le démarrage d'une activité de travail aérien avec des petits drones. Et donc, ça a permis la création d'entreprises et donc la création d'un certain nombre d'emplois sur ce domaine.
Alors, quand on parle d'activité, on imagine ce petit drone, le bourdon qui est en l'air. Au sol, il y a un pilote qui contribue à ce vol. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu mieux les différentes possibilités de gestion de ce drone par celui qui est au sol ?
Oui, alors en fait, on parle depuis le début de cette émission, nous parlons du segment aérien. Mais finalement, un drone, c'est à la fois le vecteur aérien, donc l'aéronef, mais c'est également ce qu'on appelle la station sol. Alors la station sol, c'est un bien grand mot, puisque finalement, c'est une télécommande, voire un téléphone ou un ordinateur qui va permettre de donner un certain nombre d'ordres à notre petit drone et qui va permettre aussi de récupérer des informations sur ce qui se passe, c'est-à-dire avoir des informations sur l'état du système ou avoir des informations sur ce que les capteurs renvoient. Et bien entendu, entre les deux, on a une liaison qu'on appelle donc le lien sol-bord et qui va permettre de transmettre ces informations. Et l'ensemble du système est bien évidemment soumis à la réglementation.
Et quand on parle de gestion, est-ce qu'on peut imaginer d'avoir un drone, on lui impose un certain parcours ?
Absolument. C'est-à-dire que quand on parle de gestion, la plupart du temps, on va se trouver avec donc, ce que j'ai appelé opération qui va être prédéfinie et donc préprogrammée sur la station sol, puis téléchargé sur le drone qui va suivre donc les points de report qu'on lui a définis au départ.
Éventuellement, il ne revient pas à son point de départ.
Absolument, c'est une possibilité. Alors, il faut savoir que ce qu'on distingue quand même, et je ne l'ai pas encore mentionné, c'est vraiment quelque chose d'important. On distingue finalement deux grands types d'opérations. La première, c'est les opérations qui vont se faire totalement en vue du pilote, qu'on appelle le télépilote et qui est au sol, et les opérations qui vont se faire en partie hors vue du pilote. Et là, bien évidemment, on va rajouter des exigences parce que, comme vous le dites, il faut être absolument sûr que le drone va suivre sa trajectoire et va être capable d'atterrir, quoi qu'il arrive, à l'endroit prévu.
Et cette question de la fréquence qui permet le lien entre le pilote au sol et le drone est... C'est quand même un point très sensible au niveau de la sûreté, justement, dont on parlait tout à l'heure.
Absolument. C'est une question qui est, je dirais, brûlante, dont on discute beaucoup. Mais pour l'instant, on n'a pas de fréquence dédiée pour les petits drones. Et donc, ils vont utiliser des fréquences libres, type fréquence Wi-Fi ou les fréquences du FLARM, et avec des puissances qui sont limitées et qui sont donc définies dans la réglementation. Et du coup, l'utilisation de telles fréquences pose bien entendu le problème de l'utilisation de telles fréquences, met en avant le risque de perturbation de cette liaison, puisque ce sont des fréquences qui peuvent être utilisées pour d'autres applications. Et on n'a pas jusqu'à présent eu la possibilité de proposer une fréquence qui soit vraiment protégée Et on espère à l'avenir être capable d'utiliser donc une nouvelle bande de fréquence qui a été attribuée par l'ITU, l'Union des Télécoms Internationales, et qui est une fréquence dans la bande des 5 gigas. Et cette fréquence sera entièrement dédiée aux drones.
Et ça, vous parlez de l'ITU. À quel endroit ça se négocie donc, concrètement, elle se situe où, cette ITU?
Alors, bonne question. Donc, les négociations, en fait, se font en plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'elles commencent à l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, au niveau de ce qu'on appelle un panel, donc une assemblée qui est chargée justement de réfléchir à l'utilisation de ces fréquences. Et ensuite, donc, l'Organisation internationale des télécoms est organisée en plusieurs groupes de travail qui vont essayer d'optimiser l'allocation des fréquences. Les fréquences, c'est une ressource vraiment rare et coûteuse. Et donc, on va essayer de partager au mieux cette bande de fréquences de façon à ne pas, bien entendu, interférer avec d'autres applications et à ne pas également risquer de perdre ces fréquences. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les fréquences, pour qu'elles puissent être utilisées pour les drones, il faut que l'appareil lui-même soit en portée optique par rapport justement à la station sol où se trouve le télépilote, et que quand ce n'est pas le cas, on est en plus obligé d'utiliser des relais satellites, ce qui complique encore le problème.
Alors, je profite de ce que vous venez de dire, vous parlez de portée optique, alors on y reviendra peut-être, mais sur la question militaire, bon, on n'est pas dans votre spécialité, n'est pas dans le contexte militaire. Mais bon, lorsqu'on entend parler qu'on peut y avoir des pilotes qui se situent, par exemple, aux États-Unis et qui coordonnent certaines actions de drones loin à l'étranger, comment ça se passe alors? Quels moyens ils utilisent?
Alors justement, on se trouve dans le cas de fréquences, je dirais, militaire, et donc c'est complètement différent de ce dont je parlais précédemment avec des fréquences libres, donc ce sont des fréquences très protégées, militaires, mais ces militaires utilisent des relais satellites qui leur permettent effectivement de piloter des drones qui se trouvent à des milliers de kilomètres et de récupérer toutes les informations nécessaires pour suivre le bon déroulement de l'opération.
Alors, pourquoi je venais en fait à la question militaire, c'est qu'en fait, le drone est parti d'un besoin côté militaire. On voit aujourd'hui que d'un point de vue civil, et vous l'avez bien décrit, avec tous les moyens dont on dispose, vous parliez tout à l'heure de smartphones, de moyens de contact Wi-Fi et autres, on est dans un contexte qui est extrêmement évolutif. Alors, comment on arrive à maîtriser ça? Et pour peut-être parler de la question réglementaire, comment vous vous coordonnez aujourd'hui pour maîtriser? On parlait de la France tout à l'heure qui était en pointe. Il y a l'Europe, les États-Unis et puis le monde.
Alors, en fait, il y a plusieurs questions. Effectivement, le point de départ concerne ce qu'on a appelé, il y a quelques années, les applications 3D. 3D pour dull, dirty and dangerous, donc ennuyeuse, sale et dangereuse. Et c'est vrai que ce type d'application correspond parfaitement aux applications militaires. Mais assez rapidement, on s'est aperçu que, par exemple, une application de surveillance peut avoir tout à fait son intérêt pour des applications civiles, de surveillance, par exemple, pour l'agriculture de précision, de surveillance de lignes électriques, de surveillance de déplacement de personnes, de frontières. Et donc, petit à petit, on s'est trouvé avec un certain nombre de drones qui étaient capables de rendre des services pour des besoins civils. En ce qui concerne donc la réglementation et toutes les initiatives, on se trouve avec la nécessité, comme je l'ai dit précédemment, de réglementer donc l'usage qu'on peut faire du drone. On le fait au niveau européen et, bien entendu, on essaie de se coordonner, hein, parce qu'il est hors de question de perdre un drone qui passerait la frontière belge et de plus savoir ce qu'il est devenu. Donc, il y a beaucoup de groupes de travail à ce niveau-là. Et finalement, chaque État vient avec son savoir-faire, avec son expérience. Et on essaie de proposer un certain nombre de règles qui vont s'appliquer à l'ensemble des drones, en particulier des États européens. Mais c'est plus large que ça. C'est-à-dire qu'on négocie et on essaie de trouver des règles qui satisfont au mieux l'ensemble des besoins au niveau mondial.
Et donc l'Europe, quel est l'organisme exact dans lequel vous, je crois que vous intervenez dans une coordination européenne ?
Oui, alors l'organisme s'appelle JARUS, for Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems. Et cet organisme qui comprenait au départ uniquement donc, des membres européens a été rejoint par un certain nombre d'autres pays, comme les États-Unis, la Chine, Israël, l'Afrique du Sud, l'Australie récemment. Et donc, on essaie vraiment de faire en sorte que ce qu'on avait initialement proposé au niveau européen soit adaptable, au monde entier. Et finalement, c'est un peu le pendant de ce qui est fait au niveau OACI, et qui concerne principalement des gros drones.
L'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Hein,
oui. Absolument. Donc, le pendant de ce qui est fait au niveau OACI pour des petits drones qui vont voler finalement assez près du sol.
Alors, si cette association, si je puis dire, JARUS, dont vous venez de parler, intègre des pays autres que l'Europe, comment se passe cette coordination mondiale ? Est-ce qu'on arrive, puisque l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, on le verra d'ailleurs dans un autre entretien que nous aurons dans l'Oiseau Blanc assez prochainement, comment on arrive à se coordonner sur le plan mondial alors que d'un autre côté, on se coordonne également avec des États qui dépendent quelque peu, plus que peu d'ailleurs, de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale ?
Oui, vous avez raison. Sur le papier, ça paraît assez compliqué. Dans la réalité, finalement, le monde des drones est un monde assez petit et on retrouve les mêmes experts dans les différents organismes. Donc, bien évidemment, ça aide à proposer des choses qui soient compatibles. C'est aussi quelque chose qu'on fait étape par étape. C'est-à-dire que je pense que contrairement à ce qu'on a fait pendant des années pour l'aéronautique traditionnelle, on n'est probablement pas en train de construire quelque chose qui va durer 30 ans. Mais on essaie donc de réfléchir à ce qui est indispensable pour le court terme, pour garantir donc la sécurité de l'ensemble des vols et de drones et des vols de l'aviation habitée. Et puis, on essaie de réfléchir à un peu plus long terme, à moyen terme, pour permettre le développement de toutes ces activités drones et donc la création finalement de richesses autour de ces vols. Et puis, on réfléchit à long terme comment peut-être toutes les technologies qu'on est en train de développer pour les drones pourront même contribuer à avoir une aviation pilotée plus sûre.
On voit bien de toute cette discussion que nous avons aujourd'hui que l'activité récréative dont on parlait tout à l'heure, eh bien, elle s'intègre dans une problématique générale. C'est-à-dire que la personne qui va acheter son drone dans un magasin, elle doit comprendre que, ma foi, ce drone-là, ce n'est pas qu'un drone récréatif. C'est-à-dire qu'il est obligé de s'intégrer et on est obligé de respecter une certaine réglementation, et vous l'avez dit tout à l'heure. Et en matière de poids, quelle est la limite ? On est toujours à 150 kilos, je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, sur les drones récréatifs.
Non, 150 kilos, ça ne concerne pas les drones récréatifs. Oui. Jusqu'à présent, et pour encore très peu de temps, les États sont chargés de la réglementation jusqu'à 150 kilos. Et au-delà, c'est une réglementation européenne qui est en cours d'écriture et qui s'appliquera. D'ici un an et demi, on aura une réglementation pour tous les drones, y compris les tout petits, donc de zéro jusqu'au plus gros, qui sera une réglementation européenne. C'est le résultat de tous les groupes de travail dont nous avons parlé et qui ont permis d'aboutir à des règles harmonisées pour l'ensemble des drones. Faire une distinction par le poids pour la partie récréative, comme je l'ai dit avant, je préférerais faire une distinction par le type d'opération. Et ce qu'on est en train de mettre en place au niveau européen, c'est finalement trois catégories d'opérations. Une première catégorie qu'on a appelée open et qui comprend tout ce qui est récréatif, qui permet de faire voler des appareils jusqu'à 25 kg, mais sous certaines conditions. En particulier, donc, le télépilote doit rester à vue tout le temps de son drone. Et donc, il doit être capable, bien évidemment, d'éviter tous les obstacles, d'éviter les autres aéronefs et de se poser s'il a la moindre panne ou si quelque chose d'anormal se produit. C'est également une catégorie de drones qui interdit le survol de population. La deuxième catégorie, qu'on appelle spécifique, c'est une catégorie qui va permettre beaucoup plus facilement donc, le développement de travail aérien, puisque c'est une catégorie pour laquelle on va considérer l'opération, faire une analyse du risque et en déduire quels sont les équipements qu'on devra trouver sur le drone, quelles sont les procédures que le télépilote devra respecter et finalement, comment va s'organiser l'intégration dans l'espace aérien en fonction donc, du trafic environnant. Et enfin, on a une troisième catégorie qu'on a appelée Certified, où là, on va appliquer complètement toutes les procédures qu'on a mises en place depuis des années pour l'aviation pilotée. Et donc, on va retrouver dans cette catégorie tous les gros drones et en particulier tous ceux qui vont voler aux instruments et qui vont faire des liaisons internationales.
Alors, nous verrons dans d'autres émissions de l'Oiseau Blanc, on essaiera d'expliquer à nos auditrices, auditeurs, ce qu'est le vol aux instruments, le vol à vue. Il est clair que quand on parle de vol instrument, je vais résumer, je pense qu'on va se résumer à l'activité commerciale, les avions militaires, enfin, il y a tout un environnement. On en reparlera tout à l'heure après notre pause musicale. Catherine, vous nous avez proposé une pause musicale. Vous pourriez nous dire ce que vous voulez entendre ?
Ah, je vous ai proposé donc la valse en la mineur de Chopin. Bon, c'est une valse que j'aime bien et c'est vrai que j'ai beaucoup entendue.
l'oiseau blanc. Nous nous retrouvons toujours avec Catherine Ronfle-Nadeau sur la question des drones. J'ai une question. Quand on parle de drones, il n'y a pas de pilote à bord de l'avion, il n'y a pas d'humain. Et en fait, on se retrouve avec un humain qui est au sol et qui gère. Est-ce qu'il y a une gestion particulière de toutes ces problématiques de l'humain en tant que pilote au sol ?
Ah, bien sûr. Déjà, ce dont on a parlé, le fait de mettre des plaquettes, de donner des consignes, de responsabiliser les télépilotes, c'est quelque chose de vraiment important. Donc, la responsabilité de l'opération, elle est clairement du côté du télépilote. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et qui concerne peut-être les drones plus gros, c'est finalement de mettre un certain nombre d'exigences sur les informations qu'on va présenter à ce télépilote. Et ça, c'est un travail qui est fait donc au niveau de l'OACI, hein, dont nous avons déjà parlé, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, pour lequel on fait appel à des ergonomes. On va vraiment, exactement comme on le fait pour un cockpit d'avion, on va réfléchir à comment on peut présenter au mieux pour le télépilote une bonne image de la situation. Il faut absolument, et je dirais même encore plus parce qu'il est au sol, qu'il sache exactement ce qui se passe à bord et autour de son appareil.
Et c'est un point d'étude qui existe aujourd'hui sur les drones dits récréatifs dont on parlait tout à l'heure ?
Pour les drones récréatifs, hein, qui pour l'instant concernent principalement ce qu'on a appelé les vols à vue, hein, qu'on appelle aussi vélos, on n'a pas vraiment de groupe de travail qui se penche là-dessus. En revanche, la plupart des constructeurs font en sorte que l'appareil soit facile à utiliser, que le télépilote puisse avoir un maximum d'informations et de facilité à préparer son opération.
Est-ce qu'il y a une formation qui est exigée en fait aujourd'hui pour ces télépilotes ?
Alors aujourd'hui, pour ce qui est récréationnel, non, il n'y a pas de formation exigée. Bien, ce qui est obligatoire maintenant, c'est de lire la plaquette pour savoir ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. En revanche, pour ce que j'ai appelé le travail aérien avec des drones, et en particulier quand on va faire du vol hors vue, oui, il y a des exigences. Ces exigences concernent une formation théorique qui est au minimum d'avoir donc un brevet théorique du LM, et sinon n'importe quel brevet de l'aviation pilotée. Et pour des vols où on va faire voler hors de la vue du télépilote le drone, là, il faudra une expérience en tant que commandant de bord de 100 heures, plus 20 heures d'expérience comme télépilote. Donc tout ça pour que finalement, l'ensemble des télépilotes soient responsabilisés, aient une bonne connaissance de l'espace aérien et finalement, j'ai envie de dire, aient bien compris qu'un décollage est optionnel, mais qu'un atterrissage est toujours obligatoire.
Quand on parle de hors-vue, je suppose que les drones, par exemple, le prix dont je parlais tout à l'heure de 2200 euros, il doit bien y avoir des drones avec lesquels on peut faire du hors-vue.
Ah, les performances de l'appareil permettent bien évidemment de faire du hors-vue. Certains drones montent jusqu'au niveau 100, donc le niveau 100, ça correspond à peu près à 3000 mètres. Il faut faire la distinction entre ce que permettent les performances de l'appareil et ce qu'autorise la réglementation. Donc, quand il s'agit de vol récréatif, on a obligation de voler en vue du pilote et en vue, quand il s'agit sans utiliser de jumelles ou d'autres appareils, ça veut dire qu'on reste à 200 mètres autour du pilote.
Et ça, la plaquette le précise.
La plaquette le précise complètement.
Alors, supposons que j'achète un drone, je peux très bien faire du hors-vue, si je n'ai pas envie de respecter la réglementation.
Oui, enfin, les performances. Alors après, tout dépend du drone, parce qu'il faut aussi être sûr qu'on va garder la liaison. Hein, donc si par exemple on a une liaison en Wi-Fi, la portée du Wi-Fi va être de 250, 300, guère plus. Bien entendu, c'est aussi une portée optique. Donc si on passe derrière un obstacle, on risque de perdre la liaison et de perdre l'appareil. Donc, oui, on a toujours moyen de ne pas respecter la réglementation, mais c'est quand même se mettre en danger. Les peines encourues sont importantes et le risque qu'on fait subir, je dirais, à la population et aux autres aéronefs est important. Il faut en avoir conscience et être bien conscient qu'on sera responsable de ce qui peut arriver.
Et tout achat est enregistré? C'est-à-dire qu'en fait, bon, on parlait tout à l'heure de la lecture de la plaquette, mais lorsqu'on achète un drone, est-ce qu'on est fiché quelque part?
Alors aujourd'hui, l'enregistrement n'est pas encore effectif, mais la loi dont je parlais donc d'octobre 2016 va obliger donc à un enregistrement de l'ensemble des appareils à partir de 800 grammes.
On va voir un autre domaine. Aux États-Unis, on a beaucoup entendu parler ces derniers mois, les dernières années, de la possibilité de livrer des colis par des drones. Et en France, on ne semble pas qu'on soit encore sur ces idées-là. Alors, y aurait-il entre les États-Unis, la France et voire l'Europe une différence de vue sur l'exploitation des drones, je dirais un peu plus libérale côté américain?
Non, pas du tout. En France, on est même assez en avance là-dessus. La Poste, donc Géoposte, fait des expérimentations et livre toutes les semaines donc, des colis en utilisant des drones. Donc ça se fait dans une zone non peuplée, du côté de Pourrières, donc pas très loin d'Aix-en-Provence. Et donc il s'agit de vols hors vue d'une vingtaine de kilomètres qui permettent de délivrer principalement des petits colis et du courrier toutes les semaines.
Et quelle est la masse de ce genre de drones?
Alors, ce sont des drones qui peuvent transporter de mémoire 2 à 3 kilos, donc un drone qui fait une dizaine de kilos.
Et donc, du côté de Pourrières, qui est un coin que je connais quelque peu, c'est-à-dire qu'en fait, là, ils s'intègrent dans l'organisation du trafic aérien, ils gèrent cette problématique?
Absolument. Donc, ce sont des vols hein, qui se font à ce qu'on appelle VLL, Very Low Level, donc très basse altitude, et qui sont notifiés aux militaires, puisqu'ils traversent une zone militaire, qui vont finalement prendre soin de la séparation de ces opérations des trafics pilotés.
Donc, en fait, en France, on est comme aux États-Unis, on part quand même vers ce domaine de manière assez, je dirais, ambitieuse.
Absolument. Alors, là où vous avez raison, mais c'est vrai aux États-Unis, comme c'est vrai dans tous les pays d'Europe, la réglementation actuelle ne permet pas de faire ce type d'opération n'importe où et par exemple d'aller livrer des colis place du Capitole. En revanche, c'est une approche étape par étape, c'est-à-dire qu'on commence par faire donc ces expérimentations pour travailler à la fois sur ce que j'ai appelé tout à l'heure la navigabilité de l'appareil, c'est-à-dire sa capacité à faire un certain nombre d'opérations, de vols, prendre confiance dans sa faculté finalement à ne pas se cracher. Hein. Et puis, donc, on essaie d'améliorer cette partie-là et on regarde côté opération comment on peut aussi faire en sorte d'assurer la régularité de ce type de vol qui, bien évidemment, dépend beaucoup de la météo, et du trafic environnant, des personnes et des biens qu'on va pouvoir trouver au-dessus donc, des vols dans ce type d'opération.
Nous sommes en fait dans un contexte qui est quasiment sans limite. C'est-à-dire que chaque jour, on a peut-être des idées nouvelles.
Oui, ça c'est à la fois ce qui est très intéressant et quelquefois un petit peu angoissant, puisque je pense que vous en avez entendu parler, mais on commence à parler également de taxi-drones. Hein, et des grands constructeurs commencent à réfléchir à des prototypes. Il y a eu récemment des vols à Singapour, à Dubaï, avec des taxi-drones.
Donc, taxi-drones qui peuvent partir des aéroports.
Alors, je dirais qu'on a plusieurs problèmes avec les taxi-drones. On a le premier problème de transporter des passagers qui vont quand même se trouver dans un aéronef sans personne, comme dans le métro à Toulouse, mais avec, encore une fois, la nécessité d'atterrir s'il se passe quoi que ce soit à bord. Et donc, atterrir, ce n'est pas un simple stop, finalement. Et c'est toute la gestion de cette procédure qu'on pourra appeler anormale ou procédure d'urgence qui fait l'objet de beaucoup d'attention et sur lesquelles on réfléchit en partenariat avec les constructeurs commence à se pencher sur cette problématique. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, et vous l'évoquez, c'est qu'effectivement, on peut imaginer qu'un certain nombre de business case, hein, d'applications qui pourraient permettre de dégager des richesses, se feront à proximité des aéroports. Et là, il va falloir gérer la proximité entre ces taxi-drones et les aéronefs qui décollent et atterrissent avec des passagers ou des avions cargo.
Alors, tout ce qu'on vient de dire montre bien, encore une fois, la complexité des analyses. Parce qu'on parlait tout à l'heure du contexte sûreté. Là, nous sommes dans le contexte de la sécurité. Et encore une fois, c'est un domaine qui est extrêmement, je dirais, particulier, certainement, au niveau de la circulation aérienne, cette évolution des drones.
Oui et non. C'est-à-dire que si on parle des gros drones, finalement, les gros drones, on a jusqu'à présent relativement simplifié le problème d'un point de vue de la navigation aérienne, puisqu'on a dit le commandant de bord et le télépilote, il est au sol, il pilote son appareil, il discute avec le contrôle aérien et il suit les procédures dont on a parlé tout à l'heure, les procédures aux instruments. Donc, dans la mesure où ses performances le lui permettent, il va se comporter exactement comme un avion piloté. On va juste avoir les cas dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les cas de panne, les procédures anormales qu'il va falloir développer, tester. Mais sinon, finalement, on a affaire à un aéronef normal. Et puis, il y a les petits drones, où là, effectivement, on ne peut pas imaginer d'embarquer des systèmes redondants, des capteurs redondants pour faire en sorte qu'ils se comportent comme l'aviation pilotée. Et là, effectivement, c'est quelque chose de complètement nouveau que nous devons mettre en place.
Alors, je crois qu'on arrive à toucher cette question d'intégration du drone dans le trafic aérien. Où se situe aujourd'hui l'analyse de ces questions? Comment faites-vous pour travailler sur l'intégration des drones dans le trafic aérien? Est-ce que vous avez des expérimentations en cours?
C'est-à-dire que, alors finalement, on fait deux choses en parallèle. On réfléchit à comment on va modifier la Convention de Chicago. Hein. Donc, la Convention de Chicago, c'est un texte international qui permet de régir toutes les règles qui vont permettre à l'aviation civile, finalement, de faire des vols internationaux. Et ça va permettre aussi d'avoir de base tous les accords entre les États. Donc, on réfléchit à modifier l'ensemble de ces textes pour prendre en compte la problématique drone. Ça, c'est ce qu'on fait à l'OACI très régulièrement, 3 fois par an, et on se met d'accord. Et petit à petit, on arrive à avoir des textes qui permettent effectivement la prise en compte des drones. Parallèlement à ça, finalement, on essaie d'avoir une validation de ce qu'on a proposé de façon théorique et on fait des expérimentations. Tous les pays font des expérimentations. Et côté français, on a démarré en 2013 par des expérimentations à Toulouse, d'autres à Bordeaux. Et on vient d'en faire cette année au mois de décembre, donc en simulation, pour effectivement voir quel va être l'impact de l'arrivée de ce type d'aéronef sur des aéroports, je dirais, de taille moyenne, comme Bordeaux et Toulouse. Il est vrai qu'aujourd'hui, on n'envisage pas encore d'avoir des aéronefs non pilotés, à bord, sur des gros terrains comme Roissy, Orly, Nice ou Heathrow en Angleterre.
Et dans ces expérimentations, vous utilisez des drones simulés ou des drones réels, en fait?
Alors, les deux.
Les deux.
C'est-à-dire qu'en général, on essaie de faire donc des procédures adaptées aux drones. On les teste d'abord par des simulations et puis on fait ensuite des vols réels. Alors, on fait des vols réels de deux types, soit en utilisant ce qu'on appelle des OPV, Optionally Piloted Vehicle, c'est-à-dire ce sont en fait des avions qui ont un système de drones complet, c'est-à-dire qu'ils vont se comporter exactement comme des drones, mais dans lesquels on peut embarquer un pilote qui finalement va être un pilote de sécurité et qui n'interviendra que si on a une difficulté avec le système de drone. Donc ça, c'est ce qu'on a fait en 2013 à Blagnac. Et on a fait également, à l'occasion donc, de ces vols avec un pilote de sécurité, des essais pour voir comment des systèmes sont capables de voir et éviter les autres aéronefs.
Et comment c'est perçu par les contrôleurs aériens ?
Eh bien, la préparation, je dirais, a fait l'objet de nombreuses questions et d'inquiétudes. Et quand on a fait finalement le débriefing après les vols et après les simulations, la première remarque qu'on a eue, c'est « mais un drone, c'est un aéronef finalement ». Et effectivement, quand tout fonctionne correctement, ce qui a été le cas pendant ces démonstrations, le contrôleur se comporte avec le drone exactement comme avec un avion piloté.
Et sur l'aéroport lui-même, est-ce que vous avez des études particulières, le drone qui se pose sur l'aéroport, le parking ou autre? Est-ce qu'on en est d'ores et déjà là?
Oui, alors vous avez raison, c'est quelque chose qu'on va faire dans les années à venir et pour lequel on n'a pas encore beaucoup d'expérience. Ceux qui ont beaucoup d'expérience là-dessus, ce sont les militaires, mais comme ils se posent sur des plateformes qui ont des règles et des procédures particulières, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va devoir développer et pour lequel on a besoin encore d'acquérir de l'expérience.
Encore une fois, on voit bien toute la problématique de ces drones tout à fait passionnantes. Et ces expérimentations dont vous venez de parler, donc expérimentations, vous venez de dire à l'aéroport, sur le contexte de Toulouse, le contexte de l'aéroport de Bordeaux. Après, vous devez intégrer vos résultats au niveau européen. Ça se situe à quelle échelle?
Exactement. Alors, complètement oublié de le mentionner. En fait, ces expérimentations ont été faites dans le cadre de projets de la CESAR-JU. Donc, CESAR pour Single European Sky ATM Research. Donc, en fait, il y avait eu un appel à projets auquel on a répondu donc en 2013 et qui ont permis d'obtenir des financements sur un certain nombre d'expérimentations. Et à la suite donc de ces expérimentations, on a fait un retour à la CESAR-JU qui a intégré nos analyses et nos résultats à ceux d'autres pays.
Et sur le plan européen, il y a d'autres expérimentations qui ont lieu du même type?
Absolument. Il y a eu des expérimentations en Angleterre, de mémoire à Malte. Donc en France, nous en avons eu deux. Et j'ai plus en tête toutes les expérimentations, mais il y en avait une dizaine en Europe.
Donc, on voit, Catherine, que vous intervenez partout. Vous êtes sur le plan européen. Je suppose que vous êtes en réunion assez souvent à l'étranger. Sur le plan européen, vous parliez tout à l'heure de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Je crois que vous étiez il y a peu de temps à Montréal où vous allez y retourner. Enfin, vous êtes souvent hors de chez vous.
Oui, c'est vrai que à partir du moment où on cherche à construire, un framework, un réseau réglementaire qui soit plus large que le réseau français, il faut bien qu'on se rende compte et qu'on essaie à la fois d'apporter nos expériences et notre vision pour avoir quelque chose d'harmonisé au niveau européen et au niveau international.
Et cette vision, vous pensez qu'on arrive justement à la coordonner? Tout est clair ou...
Non, je ne vais pas dire que tout est clair. Et puis, bon, vous savez bien que derrière, il y a également des intérêts économiques, des intérêts industriels, et que donc, on défend aussi un petit peu, chaque État défend sa solution technique. Mais je dirais que globalement, on essaie vraiment de ce qu'on pourrait dire familièrement, de sortir par le haut, c'est-à-dire de mettre tout sur la table et d'essayer de trouver le meilleur compromis qui va permettre à la fois de faciliter les opérations de drones, mais également de maintenir la sécurité au niveau sécurité aérienne au niveau où elle est aujourd'hui. Donc c'est l'affaire de tous. On ne peut pas dire moi je vais faire d'une façon particulière sans tenir compte de ce que proposent les autres.
Alors, pour rester dans ce contexte d'intégration du drone dans le trafic aérien, aujourd'hui, on sait que lorsqu'on parle avion, pour s'éviter, il y a les pilotes à bord, et donc ce sont les systèmes qui permettent aux deux avions de s'éviter, voire les pilotes qui agissent pour que ces deux avions concernés s'évitent. Et avec le drone, qu'est-ce qu'on a comme solution?
Alors, vous avez raison, c'est vraiment un des verrous technologiques majeurs qu'on a encore aujourd'hui. Sur les gros drones, on est capable maintenant d'embarquer un certain nombre d'équipements et d'avoir aussi ce qu'on appelle des capteurs coopératifs qui vont permettre de remplacer les yeux des pilotes par un certain nombre de systèmes qui vont dialoguer entre eux, qui vont permettre aux drones de rester loin, d'avoir une séparation entre eux et par rapport à l'aviation pilotée, et en dernier recours, si effectivement les appareils se trouvent trop près, de faire ce qu'on appelle les manœuvres d'évitement pour éviter la collision. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est en train d'être développé en Europe et principalement aux États-Unis et qui devrait bientôt équiper les gros drones. En revanche, pour les petits drones, c'est beaucoup plus compliqué parce que le type de capteur est trop coûteux et trop lourd. Et donc, on imagine une stratégie un peu différente où, effectivement, on essaierait d'abord d'avoir ce qu'on appelle une séparation, une déconfliction. Le mot exact, c'est déconfliction, qui n'est pas un très beau terme, stratégique. C'est-à-dire qu'avant même le décollage, on essaiera donc de prendre en compte la trajectoire à la fois en 3D et on ajoute le temps, pour savoir exactement à quel endroit va se trouver le drone à un moment donné. Et on essaie, en amont du vol, de le séparer des autres trajectoires qu'on connaît. En dernier ressort, il faudra trouver un moyen, effectivement, de faire ce qu'on appelle donc, la déconfliction tactique et de faire en sorte que les drones s'évitent. Mais aujourd'hui, sur les petits drones, on n'a pas vraiment de système efficace.
Et en fait, on peut relier ce point-là à la question taxi dont on parlait tout à l'heure.
Exactement. Ce sont encore des verrous technologiques. Les taxis feront probablement avancer les choses parce que finalement, on va se trouver avec quand même des drones assez gros pour lesquels on va avoir des exigences en termes de navigabilité très fortes puisqu'on a des passagers à bord. Et on va les obliger à emporter des équipements capable de faire donc ce qu'on a appelé le detect and avoid pour remplacer le voir et éviter du pilote.
Alors nous allons revenir, moi je vais revenir sur notre belle région toulousaine, Toulouse. J'ai entendu parler d'une volière à l'ENAC. Qu'est-ce qu'on y fait dans cette volière à l'École nationale de l'aviation civile ?
Alors effectivement, donc la volière a été construite depuis 2 ans, elle va être bientôt inaugurée. Et l'idée de cette volière, c'est d'améliorer la boucle de contrôle des drones. Alors, ça peut paraître un petit peu compliqué, mais l'idée, c'est de faire en sorte que l'appareil connaisse le mieux possible sa position et que lorsque sa position est bien connue, qu'il puisse naviguer le plus conformément possible à ce que, finalement, le télépilote a préprogrammé. Quand on fait ça à l'extérieur, il est très difficile de vérifier le fonctionnement de l'appareil parce qu'on se trouve avec du vent, avec peut-être des pressions qui ne sont pas exactement ce qu'on avait prévu. Et donc, il est idéal d'avoir un local permettant effectivement de vérifier si le contrôle de l'appareil correspond exactement à ce qu'on avait programmé. Et pour les étudiants, c'est très intéressant aussi puisqu'ils ont beaucoup de cours de ce qu'on appelle l'automatique, et ça leur permet de voir comment on peut appliquer les règles et comment effectivement on peut vérifier qu'elles correspondent à ce qui a été programmé.
Ce qui est passionnant dans ce que vous venez de dire, c'est qu'en fait, ces difficultés dont on parlait tout à l'heure avec l'intégration du drone dans le trafic aérien, on voit que les études, même à très petite échelle, servent.
Absolument, ça va contribuer aux études, même pour les petits drones, parce que quand on veut garantir une bonne intégration dans l'espace aérien, il faut avoir une certaine confiance sur la qualité de la navigation qui va être suivie par le drone et donc la précision de la trajectoire qui va être suivie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les petits drones, on n'a pas beaucoup d'informations, on n'a pas beaucoup non plus d'exigences sur la qualité de cette trajectoire. Les travaux qui sont faits à l'ENAC permettront certainement d'améliorer ce point.
Donc on peut conseiller à nos jeunes auditeurs, étudiants éventuellement, ce genre d'activité très porteuse aujourd'hui.
Ah, absolument, je pense qu'il y a beaucoup d'emplois qui ont été créés dans ce domaine. Il y a beaucoup à faire et bien évidemment, c'est un domaine passionnant.
Catherine, merci pour toutes ces informations que vous venez de nous apporter sur ces questions drones. J'espère que nos auditrices, auditeurs ont bien compris tout l'éventail de ce domaine. Je crois que vous travaillez dans un domaine qui est passionnant. Je crois savoir que vous êtes passionné dans votre activité. Encore une fois, merci pour cette interview. Dans la prochaine émission, j'aurai le plaisir de recevoir Jean-Michel Verne, qui est président du directoire de l'aéroport de Toulouse-Blagnac et qui occupe cette fonction depuis 1999. C'était L'Oiseau Blanc, une émission de Philippe Trousselard, avec à la technique notre fidèle Jean-Loup Arzac. Au revoir.